Bonjour tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, épisode numéro 10. Mon nom est Tommy Godette et aujourd'hui, sous la trame sonore de Chrono Trigger au Super Nintendo, mon ami Jason, salut Jason.
Bonjour.
Et François Lompré.
Salut les magiciens.
Collaborateur à Terrain Basique sur la page Facebook beaucoup. On veut débuter cette émission en discutant de moments magic marketing, on pourrait dire.
Des regrets.
Des regrets.
C'est vrai que t'as un gros regret, Tommy.
Ben moi, en fait, la première fois que j'ai vendu toutes mes cartes, parce que ça m'est arrivé juste une fois, dans le fond, c'était en 1996, et à cette époque-là, j'avais commencé à jouer et je trippais beaucoup sur les Elder Dragons. Je m'étais fait un deck avec les 5 Elder Dragons dedans, et au total, je pense que j'avais autour de 50 Dual Land. Puis j'ai tout vendu ça à l'époque pour 150$ pour m'acheter un deuxième vidéo. Là, c'est
ça
sûr.
Ça serait ton fonds de retraite en 2010.
Ah, c'est fou, je pourrais m'acheter une maison. Là. 50 Dual Land sont vendus à 300$ minimum chacun. Ouais. C'est fou. Et puis je veux dire, j'avais plein de cartes autour. Là. J'avais une collection de noirs, je trippais sur le noir, c'est encore pas mal ma couleur préférée. Et j'avais toutes les cartes noires au moins une fois, sauf Chains of Mephistopheles que j'avais pas. À l'époque, ça valait déjà 75-80$. Ouais. Donc voilà, mais faut dire que le deuxième vidéo, c'est devenu pas mal la genèse de douteux.org aussi à quelque part, parce que ça m'a permis de faire des montages de clips. Je découpais des affaires de films. Tout ça pour
c'est
dire.
Un bon move, c'est un bon
c'est
move.
Ça, je regrette pas d'avoir un deuxième vidéo. Je regrette en crise d'avoir un deuxième vidéo en vendant mes cartes de Magic. Ça, c'est sûr et certain.
Moi, j'aurais de la misère à dormir le soir à cause de ça.
Ah, oh, ben.
Ouais, mais tu sais, t'as le choix. T'as le fondateur de douteux.org ou un joueur de Magic anonyme.
Ouais. J'avoue.
Puis toi, il t'a de Frankie.
Ah, moi, je me suis laissé convaincre que Warhammer 40 000, c'était vraiment le fun.
Oh boy.
Puis c'est ça. À ce moment-là, j'ai décidé de vendre mon deck Junk ou John. Là. En tout cas, celui avec des Tarmogoyfs. Ouais, celui qui est surtout noir et vert avec Tarmogoyfs.
Ouais.
Ben, c'est ça. Je l'ai vendu le deck au complet pour des peanuts. Puis, c'est ça. J'ai acheté du Warhammer 40 000.
Toi, avant de jouer à Warhammer 40 000, tu t'es dit, je vais vendre mes cossins et puis je transfère.
Ouais.
Ah ouais. Hein?
Ben, pas toutes, là, mais je savais que ce que je vendais, c'était de valeur. Fait que.
Warhammer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de guerre avec des petites figurines.
Oui.
Et des règles, le monde.
Et beaucoup de règles.
Beaucoup de règles.
Règles, pas comme dans Rules, mais vraiment comme tu joues à Warhammer avec un tape à mesurer.
Entre autres,
parce que tes petits soldats, ils ont une portée de temps de centimètres.
Ah, puis il y a tellement moyen d'interpréter à quel point tu vois de l'autre joueur ou pas.
Oui, puis où est-ce que ça vient une obsession, c'est que les gens peinturent leur armée,
ouais.
Hein,
ouais.
Selon les coulisses.
Parce que là-dedans, t'ajoutes une petite figurine, y a pas de random, là, c'est pas comme un booster. Là.
Non, non.
T'ajoutes ton lutin, puis là, tu le peintures, puis après ça, ben, tu l'opposes. Ça devient comme une game sur une table que tu bouges les figurines.
Ouais.
Là.
C'est un jeu qui est le fun, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que tous ceux que je connais qui ont embarqué là-dedans, ils finissent jamais de peinturer leur armée parce que c'est long. Il faut que tu peintures chaque figurine avec un petit pinceau micro. Là.
Oh boy,
puis, puis finalement, je remarque qu'ils ne jouent pas souvent à Warhammer non plus. Là. C'est beaucoup de stock à traîner. Il faut que tu trouves un joueur qui va vouloir jouer. Puis contrairement à Magic, c'est des games qui durent...
Ça peut être très long. Plus que tu mets de points. En général, je pense, dans les tournois, ils font des 500 points. Là.
Okay, ouais.
Mais ça, ça prend genre une heure.
Ah, c'est pas super.
Mais entre amis, là, des 1500 points, c'est courant. Là. Oh. Fait que c'est des. Tu vas jouer une game un soir.
C'est quand même moins long qu'Exist and Allies.
Ouais. Quand même.
Ben là, si on compare toutes ces affaires-là, ça peut devenir effectivement quand même assez long. Toi, Jason, t'as-tu un passé?
Ben oui, moi j'ai vendu à un moment donné, j'étais short en cash, fait que j'avais vendu mes. J'avais 4 Force of Will, puis j'ai oublié les autres cartes, là, mais en tout cas, ça approchait à. 800$ là, de cartes comme il faut que j'ai vendu pour payer le loyer ce mois-là. Puis à l'époque, j'avais arrêté de jouer à Magic quelques années avant. Fait que j'étais comme, tu sais, comme c'est pas grave, je vais jamais y retourner de toute façon. Tu sais, comme tant mieux, tu sais, je paye, un mois de loyer avec ça.
C'est pas ça, Magic.
Aujourd'hui, là, ça, Force of Will, ça dépasse le 100$ chacune, puis, déjà à l'époque, quand même, c'était proche. Mais, tu sais, je veux dire comme...
Force of Will, si tu me permets, ouais, deux bleus, trois colorless, tu peux aussi jeter une carte bleue et payer un point de vie pour payer le casting cost,
ouais.
Et c'est un counter spell.
C'est la carte qui te permet de counter le spell de ton adversaire au premier tour.
Ouais, okay. C'est ça. Ça empêche de l'autre de gagner au premier tour.
Ouais, c'est une carte très jouée en Legacy. Mais bon.
Ben voilà, ouais, tu sais, il regarde à terre en se rappelant le passé. Moi, j'en ai repogné deux, je pense, avec le temps des Force of Will. Là, présentement, j'en ai deux. Elles sont dans mon deck loop que je sors jamais puis que je joue jamais avec parce que c'est les affaires les plus plates ever. Là.
C'est correct de vendre les cartes, je veux dire, comme c'est ça qui donne leur valeur. Puis si t'es capable de t'acheter de quoi avec, ben tant mieux, tu sais.
Ben, je pense que où ce que tu perds moins de valeur, c'est en échangeant, là, surtout.
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Après ça, Magic, est-ce que c'est un investissement?
Je pense pas. Moi, ça me fait ça me fait tout le temps rire quand quelqu'un me dit, un joueur de Magic, me dit, j'étais allé dans un tournoi, j'ai payé 100$ mon entrée, mais au moins j'ai fini avec assez de boosters, j'ai rentré dans mon argent. Je suis comme, ouais, mais si t'aurais perdu, t'aurais pas rentré dans ton argent. Puis je suis pas mal sûr, tu perds. À Magic, tu perds plus souvent que tu gagnes.
Ouais.
Fait que, tu sais, comme ça, t'as pas d'argent à faire avec Magic the Gathering. Ouais. La seule personne qui fait de l'argent, c'est ceux qui vendent le jeu, puis les magasins.
Ouais,
le gain à faire, c'est surtout en plaisir.
Ouais, et voilà.
Moi j'ai pris, parce que j'ai recommencé ma collection de Dual Land, j'ai recommencé assez tôt, genre tournant 1999-2000, j'ai recommencé. Et je pense qu'avec le temps, ça m'a quand même permis de me remonter une bonne base de Dual Land. Et eux, je me rappelle en 2003, je jouais avec Potsleeve, avec ma Underground Sea. Là, il y a un de mes amis qui a dit non, gars, là, je suis tanné. Là, il m'a pitché un paquet de petits sleeves à une scène, là, les plus cheap. Fait que là, je fais OK, là, je vais mettre mes lands là-dedans. Puis là, Chris, j'ai remarqué que ma Underground Sea, je suis rendu, j'en ai deux. Puis ils valent les deux autour de 500-600$. Mm-hmm. Fait que je les ai mis dans un coffre de sécurité ailleurs.
Enterré dans un terrain.
C'est ça, dans une autre maison qu'ici. Et là, je joue avec des proxys des fois. Ouais. Ceux qui chiolent, ben, je les enlève, puis tout bad. Mais voilà, un jour, ça va me payer un voyage au Japon, puis je vous amènerai si vous êtes
J'ai une bonne anecdote, si vous voulez...
On veut une anecdote.
Si vous voulez grincer des dents un peu, là, c'est taper dans YouTube New York Tournament November 1994. Puis c'est un tournoi filmé avec une caméra de l'époque là. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment avant l'avènement des sleeves. Puis vous pouvez voir dans ce tournoi là des gens qui brassent des Black Lotus puis des Mox, aucune sleeve, puis ils brassent ça, tu sais, comme au casino là. Tu sais, quand tu fais deux paquets séparés,
Il applique quasiment la carte là.
La carte plie, tu vois la carte plier. Puis après ça, tu vois, il joue, puis c'est quand il se met à jouer.
Puis quand il dépose sur la table, ça fait tac, parce qu'il est vraiment fort.
Tous ceux qui jouent à Magic, je pense que connaissent Black Lotus. Là, c'est un artefact qui coûte zéro.
Effectivement.
Puis la sacrifie, ça donne 3 manas d'une couleur que tu veux. Je crois qu'elle est rendue. La dernière qui a été vendue dans une enchère, 80 000$. Ça n'a pas de sens.
Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer, moi, on disait, voyons donc, c'est donc bien épais, un morceau de carton qui vaut 120$.
Ouais, ouais.
Là, c'est 80 000.
Je pense que la raison pourquoi elle a autant monté de valeur, c'est. Je me sens que j'avais lu à quelque part, là, c'est un joueur de baseball.
Non, je le sais. Moi,
vas-y, raconte.
C'est, j'ai oublié le nom du gars, mais c'est un joueur de basketball du Jazz de Saint-Louis.
Ouais.
Et lui, mettons, il a 19-20 ans, là, il signe un contrat de plusieurs millions. Il est rusé, il est en 1995-96, puis il se promène, lui, il va travailler dans toutes les grandes villes en Amérique du Nord. Fait qu'il s'est fait un réseau de monde qui, lui, achetait les Black Lotus. Fait que lui, il a réussi à investir son argent de parce qu'il en faisait du cash en esti, le basketballeur professionnel. Fait que là, il a acheté tout le... Il paraît qu'il est rendu autour de 55% des Black Lotus qui existent. Ce serait lui qui les aurait. Ben, puis c'est pas pire parce qu'il s'est monté un réseau, fait que c'est pas... Tu sais, le monde, il y a personne qui a vu venir que c'était lui qui était en train de les accumuler parce que c'était plusieurs personnes différentes qui allaient les acheter.
Oui.
C'est pas comme si lui, il allait dans les magasins acheter toutes les vidéos à chaque fois. Fait qu'il a fait ça super rusé et c'est lui qui fait caster. Il y a des enchants, des encans avec des Black Lotus à 80 000. Anyway, je veux dire... C'est plus une carte de Magic, le Black Lotus. Là, je, tu peux pas aller jouer une game de Magic avec du monde, avec un Black Lotus, ouais. Puis que ça finisse pas que ben, après un autre deck, parce que... c'est ça, là, voilà. C'est...
Même, je te dirais, quand je regarde les top decks en Legacy ou Vintage, ça c'est presque jamais utilisé.
Non, mais je veux dire, si t'as une Black Lotus, vas-tu amener ta Black Lotus de 80 000 piastres au magasin? Là, l'autre gars t'a
si
dit
si je veux vraiment gagner, je sais pas, ça dépend du monde. Il y a des gens qui sont vraiment parieurs.
Ouais. Quand t'as une Black Lotus, t'as déjà gagné.
Ouais, c'est cressoué. Puis Anna ou François, il est musclé, il serait capable de passer au travers. Ah, merci beaucoup, messieurs, pour ces belles années. Il y a Martin qui est à console. Il n'a pas parlé encore aujourd'hui. Ça va, Martin?
Non, parce que je viens de réaliser que j'en ai déjà une, ces cartes-là. Puis,
je sais pas c'était quoi. C'est devenu du cutter.
Non. Oui, ça va super bien.
Alright, merci beaucoup. Hey, d'ailleurs, tu vas être super content. On va écouter le petit beat à bone, puis on s'en va vers la carte de la semaine. Cette semaine, il y en a deux. Et voilà cette semaine, la carte de la semaine ou les cartes de la semaine. C'est un monstre que j'ai découvert jadis dans Mirage et que j'avais très hâte d'utiliser dans un deck. Tu sais, des fois, il y en a une carte comme ça que tu découvres. Tu te dis, un jour, je vais trouver ce qui va avec, puis je veux me faire un deck avec ça. Et c'est une carte rouge qui s'appelle le Shocker et ça te permet de mettre deux doigts dans le... Non, c'est... En fait, c'est un insecte qui coûte un rouge et un colorless. Et le Shocker, c'est à toutes les fois qui fait du dommage à un joueur, le joueur jette sa main et pige autant de cartes qu'il y avait avant. Donc, si tu veux faire piger des cartes à l'autre...
J'ai goûté l'autre fois, ça.
Ouais. Multiplayer, ça
en fait, ce qui m'a pas mal donné le ton du deck dans lequel je voulais le mettre, c'est quand j'ai découvert le Kederect Parasite. Lui, il coûte un noir seulement. C'est un horreur 1-1 qui est pas mal pareil à l'autre insecte quand tu regardes le dessin. Et le Kederect Parasite, il fait que quand que t'as un permanent rouge, à toutes les fois qu'un de tes adversaires pige une carte... il perd un d'énergie. Ce qui fait qu'avec le Shocker, qui est un permanent rouge, et quand il fait du dommage au joueur, il jette sa main et il pige autant de cartes, mais tu peux te ramasser avec un monstre qui coûte un noir et un monstre qui coûte un noir, un rouge et un colorless pour faire du méga très gros dommage. J'ai déjà tué quelqu'un au troisième tour avec un combo qui a rapport avec ce deck-là et Liliana's Caress, bien sûr, là, l'enchantement noir qui a pris la place de Megrim, c'est-à-dire à la place de coûter un noir et deux colorless pour faire qu'un adversaire perd deux d'énergie à chaque fois qu'il jette une carte. Ça coûte un noir et un colorless seulement pour Liliana's Caress. J'aime mieux le nom Megrim que la caresse de Liliana, mais bon, on s'en fout. C'est le genre de carte quand même pas mal forte qui a revu plusieurs types de decks, je pense, Liliana's Caress. C'était donc ma carte de la semaine. Je vous en souhaite à vous aussi.
C'était savoureux.
Ce qui nous amène au sujet de la semaine, Jason, tu voulais développer sur les sagas une dynamique qu'on a vue à date seulement dans Dominaria.
Oui.
Je pense que c'est un set qu'on a beaucoup aimé tout le monde. Oui. C'est quoi, on est printemps 2018 avec
oui,
ça?
Oui, oui, sorti en avril, c'est pour célébrer les 25 ans de Magic.
Oui.
Donc c'est un retour.
On demandait à Richard Garfield de revenir.
La saga vient de Richard Garfield lui-même.
Lui-même, le cerveau du maître Garfield.
La dernière fois que Richard Garfield avait touché à Magic, c'était dans Innistrad en 2011.
Okay.
Et avant ça, je crois que c'était dans Tempest.
Ah boy, hein? OK, fait qu'il revient aux 10 ans.
Genre. Puis, fait que dans le fond, Richard Garfield a été inspiré par les board games, là, les qu'il faut que tu avances un pion, puis
Il y a Robo Rally, là. Je l'ai, ça.
Ouais. C'est le jeu. Écoutez l'épisode 3, on en parle. C'est le jeu qu'il était censé faire, mais finalement, il a fait Magic. Ouais. Ça lui a permis de faire Robo Rally après. Donc, les sagas, c'est des enchantements.
Ils fonctionnent tous en trois Magic. Étapes. Là.
Ils fonctionnent tous en trois étapes. On appelle ça des chapitres. Donc, chaque saga fait référence à des vieilles cartes de les débuts de Magic, de Alpha, les premières années de Magic. Donc, la première saga, on va prendre celle-là comme exemple, puis vous allez pouvoir suivre ensuite. The First Eruption, un saga rouge qui coûte deux colorless, un rouge. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est quand vous castez The First Eruption, vous jouez le premier chapitre. Le premier chapitre dit que ça fait 1 de dégâts à toutes les créatures qui n'ont pas flying. Ensuite, à votre tour suivant, quand ça revient à votre tour, vous jouez le deuxième chapitre de la saga. Dans ce cas-ci, ça te rajoute 2 manas rouges. Et à votre troisième tour, vous jouez le troisième saga de la chapitre. Le troisième chapitre de la saga, c'est généralement là que c'est payant. Dans ce cas-ci, First Eruption, Sacrifice, tu sacrifies une montagne, puis elle va faire 3 de dégâts à toutes les créatures autour de la table. Donc ça fait le ménage.
Je trouve ça un peu chiant, le sacrifier la montagne, moi.
Oui, c'est pour ça que First Eruption, c'est pas vraiment une bonne
carte.
Non,
c'est pas la meilleure.
Mais pour ça, je l'ai pris comme exemple. J'ai gardé les meilleurs pour la fin.
Et c'est à côté d'un Shivan Dragon, pour quelle raison?
Donc First Eruption, ça fait référence au Shivan Dragon. Shivan Dragon, si vous avez joué à Magic en 94-95, vous connaissez la Shivan Dragon. C'est la carte que tu espérais pogner dans un booster. C'est un dragon 4 colorless 2 rouges pour un 5-5 que tu peux payer 1 mana rouge pour le monter de plus 1. Donc si tu payes 5 mana rouge, il devient un 10-5 et il est flying.
Techniquement, on dit pas mal fire breathing hein, dans le jeu. Tu peux monter le power d'un monstre en plus 1 plus 0 pour un rouge, on dit qu'il crache du feu.
Donc la première carte qui avait sorti, c'était Shivan Dragon. Shivan ne voulait pas vraiment dire grand chose. Je sais que c'est Richard Garfield avait pris l'inspiration de ses noms en Inde, dans un voyage en Inde. Donc probablement que Shivan, ça a fait peut-être référence à Shiva, mais dans tous les cas, après ça, dans les lore de Magic, ils ont gardé...
J'avais jamais fait le lien entre Shiva.
Ouais, ils ont gardé le lien, ils ont créé, en fait, sur la carte de Dominaria, il y a les îles de Shiv, S-H-I-V, qui sont des îles volcaniques de où les Shivan Dragons viendraient.
Ah, voilà, tout ce book.
Vous remarquerez sur la carte de First Eruption, on voit comme une espèce d'œuf en bas de la carte, du feu qui sort.
Oui.
Donc, il y a une carte dans Urza Saga. Urza Saga sorti en 1998. Et les cartes rouges dans Urza Saga se passent sur les îles de Shiv. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dragons puis d'effets fire breathing. Il y avait la carte Wildfire qui est un sorcery 4 colorless 2 rouges. Each player, chaque joueur sacrifie 4 lands et ça fait ensuite 4 dommages à toutes les créatures autour de la table. Donc vous comprenez que c'est exactement sensiblement le même effet que The First Eruption.
Oui, effectivement.
Et on voit dans le flavor text en dessous que ça dit que l'île de Shiv est apparue à partir d'un œuf.
Une coquille de roche. Ouais,
donc, c'est un peu poétique.
Autour d'un yolk. Yolk, c'est le jaune d'œuf de flamme.
On tombe ensuite, on continue à avancer dans le temps. The Fall of Tran, un autre enchantement saga de Dominaria. 5 colorless, 1 blanc. Premier chapitre, tu détruis tous les lands. Deuxième chapitre et troisième chapitre, chaque joueur se ramène 2 lands du graveyard. Donc, bien sûr, ça fait référence à Armageddon, qui est une carte dans Alpha. All lands in play are destroyed. Un sorcery pour 3 colorless, 1 blanc.
J'ai jamais compris pourquoi c'était dans le blanc, moi, celle-là. Il me semble blanc, ça fait pas.
Ouais, c'est pas Rasmod de l'âme. À l'époque, c'est un peu avec le Wrath of God, là, qui. 3 colorless, 2 blancs qui détruit toutes les créatures.
Ben oui, ça aussi. Hein? C'est comme si le blanc, c'était super fort. Hein? C'est ça que tu es en train de me dire.
Donc, le blanc était la couleur qui faisait le ménage sur le terrain.
Ben oui, parce que c'est la couleur de l'ordre.
Les Tran, dans l'histoire de Magic, c'était une civilisation qui a existé 5000 ans avant la guerre d'Urza. C'était une civilisation très avancée qui tirait leur magie de pierre.
Okay.
Donc, c'est de eux que viennent toutes les mana rocks qu'on a en Commander.
On voit souvent Tran dans les artefacts.
Ouais, les Fel War Stone, c'est 2 colorless, Tapped Creek colorless. Donc, tu sais, t'as beaucoup
de... Le Fel War Stone te donne 1 mana de n'importe quelle couleur que les lands de l'adversaire.
Ouais, c'est ça.
Former.
Donc, c'est la bonne vieille roche qui te donne de la mana. Dans l'histoire de Magic, ça venait des Tran et ça leur permettait de faire des robots, des artefacts. Dans le fond, c'est des artefacts.
Une espèce de Magitech, là.
Magitech, un peu steampunk sur les bords. Dans l'histoire, c'est pendant la guerre de Urza et Mishra, ils creusaient le sol à la recherche des artefacts des Tran.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Antiquities.
Antiquities était basé là-dessus. Donc, il y a eu plusieurs cartes ensuite qui portaient le nom de Tran ou Alcyon. Alcyon était la capitale des Tran. Les Tran, ils ont été détruits dans une guerre civile. C'est pour ça que ça détruit toutes les lands.
Ah.
Donc, ça l'avait rasé Dominaria à l'époque. Et c'est pour ça qu'après ça.
Ils se sont chicanés à l'interne.
Tout le temps. À cause d'un gars qui s'appelle Yagmoth.
Ah, Yagmoth!
Yagmoth, c'était un Tran qui avait découvert. C'est dans le fond, ils avaient découvert que les Mana Rock avaient ça créait l'huile noire. qui est associée à la Phyrexie.
Ben oui, c'est ça.
Donc
que
c'est
je
une
pensais.
Huile noire qui transforme, qui fait des, permet de faire des zombies puis qui se répand un peu comme la peste. Là.
Fait que toutes les roches magiques donnent de l'huile noire qui font des zombies.
En théorie, mais ça dépend des plans. Là. Mais dans le cas de Dominaria, fait que Yagmoth, lui, il avait décidé de mettre ça à son avantage et de créer comme un peu l'être parfait qui renonce à la chair. Dans le fond, tu te greffes plein de... Parce que c'est ça, la Phyrexie,
ouais.
Dans le fond.
Ouais, c'est tu une espèce... Plein ça, de machines. Ça ressemble au technovirus de Marvel un petit peu, là, où...
Exactement.
Où, c'est ça ressemble un petit peu dans l'univers de Star Wars aussi, il y a le concept que tu perds ton humanité quand tu te fais mettre des parties de cyborg, là. Darth Vader, il est moitié machine, moitié homme, et ça lui permet d'être mieux méchant, genre, tranquillement, ouais. Pas vite, il s'éloigne de son humanité. Fait que, mais c'est super hot, ça, Yagmoth, j'en veux plus, moi.
Ouais, ouais, mais écoute, à un moment donné, je ferai un épisode sur la Phyrexie.
Ben
ça
oui,
nous amène au saga ensuite, The Antiquities War, 3 colorless, 1 bleu, premier et deuxième chapitre. Tu regardes les 5 premières cartes de ta librairie, tu choisis un artefact, tu la mets dans ta main.
J'ai gagné un draft, moi, à cause de cette saga-là.
Oh, et c'est le fun, cette carte-là. Puis le troisième chapitre, tous tes artefacts en jeu deviennent des 5-5. Dans le fond, ça fait référence à Urza et Mishra dans leur guerre, où ce qui déterre des artefacts Tran, ça c'est représenté par 4 fouilles pour tes cartes.
Ok.
Puis ce qui est le fun, c'est que la carte Nature Spiral dans Dominaria, un sorcery, un colorless, un vert, qui permet de retourner un permanent, incluant des lands, de ton graveyard vers ta main. Si vous regardez l'art de la carte, c'est un Strip Mine, ouais. C'était dans Antiquities, qui était un land que tu sacrifiais pour détruire le land de quelqu'un d'autre.
Ouais, donc, sauf que là, on voit qu'il se ramasse avec du vert. Ça repousse.
Donc, ça fait référence à cette guerre.
Tu vois, gars, le monstre que t'avais là, le Traxos Scourge of Krug,
oui.
4 colorless, 7-7 trample, 4 colorless pour 7-7 trample qui arrive en jeu tapé et qui a une tape seulement quand tu fais un historic spell, un artefact, une saga ou un légendaire. Justement, je l'avais dans mon deck que ouais, j'ai gagné un draft avec la saga de laquelle on parle.
En Commander aussi, ça vaut vraiment la peine dans des decks de Commander.
Dragon Engine, j'ai déjà gagné beaucoup de combats avec celle-là aussi. Donc, Jason, on poursuit avec les sagas, s'il te plaît.
Oui, oui.
T'en as quand même une très belle collection.
Beaucoup,
on s'en va à Phyrexie cette fois-là.
Phyrexian Scripture, 2 colorless, 2 noirs, une saga, premier chapitre. Tu mets un counter +1/+1 sur une créature. Cette créature-là devient un artefact. Deuxième chapitre, détruisez toutes les créatures qui sont pas des artefacts. Et troisième chapitre, tu exiles toutes les cartes du graveyard de l'opponent. Donc, cette saga-là, ça fait référence à la Phyrexie, qui est cette espèce de vilain récurrent dans l'histoire de Magic. On voit sur l'image là, une espèce de main avec le sang qui dégouline. Il est sur une espèce de
plaque,
un autel, un altar.
Ouais, c'est, ouais. C'est,
donc, ça fait référence dans Dark Ritual, dans Urza Saga. Les cartes noires dans Urza Saga se passaient en Phyrexie. Vous voyez sur l'image de Dark Ritual, t'as une espèce de main sur une autel avec le sang qui dégouline.
Ben oui.
Dark Ritual, sorcery.
Avec plein de griffes pis tout, là.
Un noir pour créer 3 mana noirs. Et c'est là qu'ils ont pris en fait le nom de la carte de saga Phyrexian Scripture. C'est dans le flavor text en dessous. Dans Urza Saga, il y a plusieurs cartes que le flavor text, là, c'est l'histoire qui est tout le temps écrite en bas des cartes, là, qui est toujours signée Phyrexian Scripture dans ce cas-ci.
Okay.
Ça dit que du vide de Phyrexia, Yagmoth, le grand-père des machines, a atteint la perfection. Le premier chapitre de Phyrexian Scripture, c'est intéressant. Ça fait référence à une carte dans Antiquities, qui est Ashnod Transmogran, un artefact qui coûte 1. Tu le sacrifies pour rendre une créature artefact +1/+1. C'était une technologie qui venait de la Phyrexie dans l'histoire. Et donc, c'est ça. C'est la Phyrexian Scripture fait référence à la... On va y revenir. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur la Phyrexie.
Ah, ben c'est sûr que je veux un épisode sur la Phyrexie.
Après ça, dans les sagas, t'as Time of Ice qui fait référence au set Ice Age. Ceux qui ont joué à Magic en 95 connaissent Ice Age. C'est l'ère glaciaire. 3 colorless, 1 bleu. Les premier et deuxième chapitres, ça fait que tu tapes une créature de ton adversaire, puis elle ne tape pas tant que tu contrôles Time of Ice. Et dans le troisième chapitre, c'est que tu retournes toutes les cartes qui ont été tapées dans les mains du contrôleur. C'est très fort. Ça fait référence, là, en fait, là, je pourrais presque passer un épisode à parler juste de tous les détails des dessins. On voit, il y a le roi des Gjeldar, qui était une des nations pendant le Ice Age. Le Ice Age, en passant, c'est après la guerre de Mishra puis Urza.
Ouais, ils ont tout fait péter.
Fait qu'il y a eu un univers nucléaire, littéralement. Fait que le monde a été recouvert de glace. Fait que t'as les Gjeldar puis les Balduvien qui se font la guerre, puis cette guerre-là, ça crée beaucoup de cadavres, fait que ça, c'est le nécromancien Limdul qui en profite pour se monter une armée de undead, puis ça va forcer les Gjeldar et les Balduvien à faire une alliance. Ça, c'est le 7 Alliance, sorti en 96.
Et voilà.
On continue notre...
Limdul, moi, je l'aime, lui.
Ouais, il est le fun, on en parlera un jour aussi. Song of Realize, saga, un colorless, un vert. Les deux premiers chapitres permettent de taper une créature pour produire un mana de la couleur de votre choix.
En fait, toutes tes créatures gagnent le pouvoir. Oui, tu peux la taper pour avoir un mana de n'importe quelle couleur.
Toutes les créatures. Puis le troisième chapitre, tu mets un +1/+1 sur toutes tes créatures. Ils ont Vigilance, Trample et Indestructible until end of turn.
Aldress, ça.
C'est vraiment Aldress, ça, c'est vraiment fort. Je l'utilise beaucoup en Commander.
Indestructible, c'est fort.
Oui, c'est dans le fond, c'est que tes deux premiers tours, tu utilises tes créatures pour casser d'autres créatures. Puis quand arrive le troisième tour, ben là, tu y vas all-in.
C'est ça.
Ça fait référence à Freyali, c'est un Planeswalker qui s'est installé chez les elfes de Lanowar. Lanowar Elf dans le set Alpha.
L'espèce de Mohawk Rose, là.
Oui, c'est un Lanowar Elf, un mana vert pour un 1-1 que tu peux taper pour créer un mana vert. Il y a eu plusieurs copies de lui ensuite. Là, c'est devenu ce qu'on appelle un mana dork.
Il n'y a pas une couleur qui a plus de sagas que les autres. Là.
C'est réparti.
C'est assez bien
équitablement,
réparti.
Ouais. Okay. Freyalize est la Planeswalker qui a arrêté le Ice Age. Grâce aux elfes de Lanowar. Parce qu'ils dans l'histoire, là, c'est les elfes de Lanowar. Vu qu'ils produisent plein de mana, avec tout ce mana-là, elle cast un Stream of Life. X colorless, un vert, gain X life. Dans le fond, tu sais, à l'arrêt de l'IC.
Finalement, ils sont très courageux, là, les elfes.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Pour
faire une pique à Tommy qui aime pas les elfes.
On aurait trouvé une autre solution. Pourquoi ils ont laissé tout ça se faire s'ils pouvaient tout guérir avant?
Flame of Kel, j'en ai parlé dans l'épisode. Ouais.
C'est pas 4 grave,
ou 5.
L'épisode, mais oui, on aime
vous retournerez le voir, j'en parlais en masse. Un colorless, un rouge. C'était très fort dans Standard avant la dernière rotation. Il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent dans les decks de mono rouge. Premier chapitre, tu discartes ta main. Deuxième chapitre, tu piges 2 cartes. Troisième chapitre, toutes tes sources rouges, donc toutes tes cartes rouges, font 2 dégâts de plus du dégât qu'ils font d'habitude. C'est très fort. Donc, premier tour, tu discartes. Généralement, dans un deck de rouge, quand tu casses Flame of Kel, t'as déjà plus de cartes dans la main.
Il te reste la carte qui est un casting cost de 8 que finalement t'abandonnes pour cette game-là.
Ça fait référence au Keldon Warlord dans Alpha qui était 2 colorless, 2 rouges.
Vu le ton de muscle après cette affaire?
Je l'aimais bien, ça.
Ouais, le Keldon Warlord, il est 1-1 par monstre que tu contrôles. Ouais, fait qu'il est 1-1 minimum vu que lui, il est un monstre.
Ouais,
mais là, tu rajoutes de la viande autour.
Si t'as 10 monstres, ça fait 10-10. Donc, cette carte-là était tellement jouée en 95 par les fans de Magic. Ils ont fait toute une suite. Là. Les Keldon ont tout le temps été là chaque fois qu'il y a eu des sets sur Dominaria dans le rouge. Donc, le Flame of Kel, ça fait référence. Dans le fond, quand tu discartes ta main, ça, c'est l'arrivée du Ice Age. Quand tu piges 2 cartes dans le deuxième chapitre, c'est que là, les Keldon, ils ont découvert la maîtrise du feu parce qu'ils ont un côté un peu
bien pratique.
Puis le troisième chapitre, c'est qu'ils partent à la conquête de Dominaria. Parce que c'est des barbares. On tombe ensuite à une de mes préférées puis une des cartes les plus jouées présentement en standard. C'est History of Brennalia. Un saga, un colorless, deux blancs. Premier et deuxième chapitre, tu crées un chevalier 2-2 qui a vigilance. Et le troisième chapitre, tous tes chevaliers gagnent +2/+1 pour un tour. Donc ça fait référence. Le Brennalia, c'était le Brennalish Hero dans Alpha qui était une créature 1-1 blanc. La fille avec les cheveux courts là, qui a une grosse air badass un peu là.
Ouais, elle ressemble à la fille dans les G.I. Joe.
Vas-y, mais fort. Cette saga-là est jouée dans des decks tribales ou
Oui, c'est des decks. Présentement, un des decks les plus forts en standard, c'est vert et blanc, un deck de token.
Ah ouais.
Parce que ça booste. Dans le fond, tu vas créer beaucoup de knights. Et ils vont gagner. Tu sais, à ton troisième chapitre, ils gagnent tout plus 2, plus 1. Dans le fond, tu crées une grosse armée, puis au troisième tour, après que tu as cassé ton Easter Benalia, généralement, tu gagnes.
Les tokens créatures de Stancet, ils ont la cote, me semble.
Oui, oui, c'est fait exprès à cause des Celestia dans Guild of Ravnica. Et,
c'est quoi ça, les
Celestia, c'est la guilde dans Ravnica qui crée beaucoup de tokens.
Ben,
c'est
des créatures 1-1. Andy, c'est ça qu'il y avait.
Ça fait l'instant là, que tu fais des tokens 1-1 lifelink en instant.
T'as plusieurs cartes qui peuvent en produire. Donc, les decks de blanc et vert présentement en standard, c'est très fort. History Benalia, je pense qu'elle dépasse le 50$.
On arrive à la moitié de ta réserve de saga.
Oui.
Ben, je pense qu'on va faire un autre épisode là-dessus.
Je voulais juste terminer sur History of Benalia. Oui. Le dessin qui est dessus, c'est une carte qui vient de Légende, qui s'appelle Thorsten von Ursus. 3 colorless, 1 blanc, 2 vert. Un 5-5 qui fait absolument rien. Ça, c'est Wizard of the Coast qui essaie de plugger comme n'importe quoi. Là. Fait qu'ils ont pris comme cette vieille carte de Légende qui faisait rien, puis ils ont décidé que c'était le fondateur de
Benalia. De la Benalia, machin. Il s'appelle von Ursus.
Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis.
Et voilà. Ben, merci beaucoup, Jason. On vient d'en apprendre une belle tranche sur revoir, en fait, un des meilleurs sets récemment. Hein. C'est sûr et certain. J'ai beaucoup aimé la dynamique des historiques et tout. Merci, François.
Ça fait plaisir.
Et bien, voilà, en remplacement de Andy, qu'on aime encore beaucoup. Voilà, c'était un petit peu le terrain basique de cette semaine. N'hésitez pas à partager, commenter. On aime tout le temps voir vos commentaires. Et là-dessus, on vous souhaite à tous d'être le moins manascrou possible.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.